VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition du vendredi 13 janvier 2017. Avec vous, Anastasie Toudiech et Abdourahman Diallo. À une ce soir, Anastasie.
En Côte d'Ivoire, le ministre de la Défense est en pleine négociation avec les mutins à Boaké.
Une délégation ouest-africaine de nouveau à Banjul pour tenter de convaincre Yahya Jammeh qui refuse de céder le pouvoir à Adama Barrow.
Démarrage du 27e sommet Afrique-France, les ministres des Affaires étrangères préparent la réunion des chefs d'État prévue demain.
La Syrie qui accuse Israël d'avoir bombardé aujourd'hui son aéroport militaire près de Damas.
Et puis tout à l'heure, notre rendez-vous quotidien avec la CAN 2017 qui démarre demain au Gabon, mais tout de suite le journal.
Boaké, la seconde ville de Côte d'Ivoire, est toujours en proie à des troubles. Ce matin, les mutins ont dispersé une manifestation de jeunes qui réclamaient le retour des soldats dans les casernes. Le ministre de la Défense est déjà sur place, mais nous retrouvons tout de suite en direct de Boaké, Siriki Baro de la radio Albayan, notre station partenaire. Alors Siriki, quelles sont les dernières nouvelles ?
Oui, les choses se sont accélérées il y a une dizaine de minutes. Nous étions tous assis devant le portail d'entrée de la résidence du préfet lorsque des mutins, apparemment très mécontents de ce que leur a annoncé le ministre, donc, ont demandé à toute la presse de partir et se sont mis en ordre de bataille.
Ah, donc une évolution qui évolue, une évolution très rapide donc de la situation à Boaké. Où se trouvent aujourd'hui ces soldats mutins ? Est-ce qu'on les aperçoit en ville ?
Ils s'étaient tous donné rendez-vous donc chez le préfet de région pour entendre eux-mêmes de vivre voir ce que le ministre en charge de défense avait à leur dire. Et au sortir donc de la rencontre entre le ministre et les responsables de ces mutins-là, on a eu écho, n'est-ce pas, qu'il avait été décidé qu'il leur soit reversé la somme de 2 millions, 1 million de francs CFA maintenant, et le reste des 1 million sera échelonné, ce qui n'a pas rencontré donc l'adhésion des soldats mutins. Et voilà, tout s'est rapidement, tout a dégénéré assez rapidement. Et toute la presse nationale et internationale présente donc pour couvrir ces négociations ont été sonnées de partir et voilà, on a dû quitter les lieux.
Voilà, Siriki Baro de la radio Albayan, notre station partenaire qui suit cette situation très volatile à Boaké. Merci beaucoup, Siriki.
Et nous ferons le point chaque heure sur la situation à Boaké. Nouvelle mission en Gambie de dirigeants de la CDAO pour convaincre Yahya Jammeh de céder le pouvoir à Adama Barrow le 19 janvier à la fin de son mandat. Le point, Nathalie Barge.
Des dirigeants de la CDAO conduits par le président nigérian Muhammadu Buhari tentent à nouveau de convaincre M. Jammeh de céder le pouvoir à Adama Barrow. Le 31 décembre, le président gambien avait accusé la CDAO de partialité et refusé le dialogue. L'Union africaine a annoncé qu'elle cesserait de reconnaître M. Jammeh comme dirigeant légitime de la Gambie à compter du 19 janvier et l'a averti de graves conséquences s'il ne quittait pas le pouvoir. D'autre part, une note de l'armée nigériane ordonne aux officiers de préparer un bataillon de 800 soldats pour une éventuelle intervention et la CDAO a déclaré disposer d'une force militaire de réserve prête à entrer en Gambie si le président sortant ne cédait pas le pouvoir. Jeudi à Abuja, les députés nigérians ont estimé qu'il fallait accorder l'asile à M. Jammeh pour ouvrir la voie à une sortie de crise. Le président gambien a nommé un médiateur pour un dialogue national. Le camp d'Adama Barrow affirme approuver le dialogue tout en excluant une quelconque prolongation de la présidence de Yahya Jammeh.
La réunion ministérielle du 27e sommet Afrique-France a débuté ce matin à Bamako. Les ministres des Affaires étrangères africains et français travaillent sur la déclaration finale qui sera adoptée demain par les chefs d'État. Nous retrouvons notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Les ministres des Affaires étrangères de 54 pays africains et celui de la France, plus leurs partenaires, ont validé la déclaration finale du 27e sommet Afrique-France. La France, à travers son ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault, est revenue sur l'engagement du président Hollande de faire le développement de l'Afrique une priorité. Pour ce faire, la France veut mobiliser une enveloppe de 2 milliards d'euros pour l'Afrique d'ici 2020 dans le cadre de l'aide au développement. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a fait savoir que la rencontre a identifié des réponses collectives concertées aux nouvelles menaces sécuritaires auxquelles les pays africains et la France font face aujourd'hui. Les participants ont insisté sur le respect des engagements dans l'accord de Paris sur le changement climatique. Par ailleurs, plusieurs chefs d'État sont arrivés à Bamako. Quant au président français François Hollande, il a commencé son séjour par Gao, où il a visité des camps militaires, faire des échanges avec les militaires de la force Barkhane, la MINUSMA et les FAMA. À son arrivée à Gao, le président français a été accueilli par le premier ministre malien avant de regagner la capitale malienne, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le président Obama a annoncé aujourd'hui la levée de certaines sanctions économiques contre le Soudan, relevant des avancées positives de la part de Khartoum. Cette décision prendra effet dans 6 mois, mais ne remet pas en cause la présence du Soudan sur la liste américaine des États soutenant le terrorisme. Le Soudan est depuis 1997 sous embargo commercial des États-Unis, qui l'accusait alors de soutenir des groupes islamistes armés.
En Tunisie, l'ancien président Moncef Marzouki voit dans la reprise de troubles sociaux la preuve de l'exaspération des Tunisiens et l'échec du gouvernement actuel. L'actuel président Kaïd Essebsi a reconnu que la crise économique n'avait pas encore été maîtrisée.
Au moins une personne a été tuée et 3 blessées aujourd'hui par 3 explosions en périphérie de la ville de Madagali, dans le nord-est du Nigeria. Les bombes ont été déposées à un poste de chasseurs, à un poste militaire et dans une gare routière, puis déclenchées à distance. Les mesures de sécurité accrues rendent l'utilisation de kamikazes difficile dans la région.
Et puis au Malawi, les autorités ont fermé aujourd'hui les bureaux du plus grand groupe de presse. Des représentants du service des impôts se sont présentés, accompagnés de policiers lourdement armés, aux locaux du groupe Times à Blantyre, selon le rédacteur en chef Georges Kasakula.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le pouvoir en Syrie a accusé Israël d'avoir bombardé aujourd'hui son aéroport militaire dans la région de Mazé, c'est près de Damas. L'aviation israélienne aurait tiré plusieurs missiles dans la nuit à partir du Golan occupé sur cet aéroport dans la banlieue ouest de Damas, provoquant des incendies, Salwa Jafari.
Cette nuit, les tirs de missiles ont visé des dépôts de munitions à Mazé et ont provoqué 8 explosions. L'aéroport de la ville abrite les services de renseignement de l'armée de l'air et une vaste prison. Damas accuse Tel Aviv, qui s'est refusé de tout commentaire. Les forces armées syriennes mettent en garde ce qu'elles appellent l'ennemi israélien contre les répercussions de cette agression flagrante. Israël, officiellement en état de guerre avec la Syrie, affirme rester à l'écart du conflit qui fait rage dans le pays. L'État hébreu mène toutefois des opérations ponctuelles contre l'un de ses grands ennemis, le Hezbollah libanais, engagé dans le conflit aux côtés du président Bachar el-Assad. En avril 2016, le premier ministre Benjamin Netanyahou a admis qu'Israël avait attaqué des dizaines de convois d'armes en Syrie destinés au Hezbollah.
Le grand moufti de Jérusalem met en garde Donald Trump sur un éventuel transfert de l'ambassade des États-Unis en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Selon le chef religieux, ce transfert ne constituerait pas seulement une agression contre les Palestiniens, mais contre les musulmans de façon générale. M. Trump avait promis pendant sa campagne de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem.
Toujours sur cette même lancée, le président palestinien Mahmoud Abbas a demandé au dirigeant russe Vladimir Poutine d'intervenir pour empêcher Donald Trump de transférer l'ambassade des États-Unis en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. J'ai transmis un message empreint de gravité du président Mahmoud Abbas au président Vladimir Poutine, a déclaré à Moscou Seb Erekat, numéro 2 de l'Organisation de libération de la Palestine.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déploré la bataille rangée qui a éclaté au Parlement hier lors de l'examen du projet renforçant ses pouvoirs. Il espérait une fin rapide du débat pour que le texte soit soumis à référendum. M. Erdogan n'exclut pas l'organisation d'élections anticipées si le Parlement n'arrivait pas à trouver une solution.
L'ordre souverain de Malte, l'une des plus anciennes institutions chrétiennes, a confirmé cette semaine son opposition au pape François en refusant de collaborer avec une commission d'enquête nommée par Georges Bergoglio.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Faisons le point sur l'actualité économique africaine, la Minute Éco, présentée par Eric Manirakiza.
Naissance de la version numérique du franc CFA dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'introduction de cette nouvelle monnaie numérique appelée ICFA vise à faciliter les échanges et l'intégration économique dans un monde de plus en plus soumis aux nouvelles technologies. Elle sera d'abord expérimentée au Sénégal avant la fin de cette année. Éditée par la BCAO, son expansion dans le reste des pays membres de l'UEMOA dépendra de son succès. La Banque africaine de développement vole au secours du Gabon avec un prêt de 200 millions d'euros pour deux programmes d'appui budgétaire pour la période 2016 et 2017. Ce premier prêt représente un financement total indicatif de 500 millions d'euros. Du 20 au 24 mars prochain, Washington DC accueille la 18e conférence annuelle de la Banque mondiale sur la terre et la pauvreté. Placée sous le thème de gouvernance responsable des terres vers une approche pragmatique, plus de 1200 participants sont attendus. En marge de cet événement, la conférence présentera les dernières recherches et expériences sur les réformes et les innovations foncières dans le monde.
Bienvenue dans cette page des sports. Nicolas Pinault, bonsoir.
Bonsoir Abdourahman.
Jour J, moins 1 avant l'ouverture de la CAN 2017 au Gabon.
Samedi, le match d'ouverture à Libreville entre le Gabon et la Guinée-Bissau. Autre match de ce groupe A, Burkina Faso-Cameroun. On retrouve tout de suite sur place l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon, Timothée Donormay.
Pierre-Emerick Aubameyang et ses compagnons voudront laver cet affront dans ce premier match, mais également afficher leur intention de s'illustrer dans cette CAN qu'ils accueillent. Les Bissau-Guinéens, eux, ont débarqué avec un contingent de joueurs qui évoluent pour la plupart en Europe. Eux aussi entendent faire de leur premier coup d'essai un coup de maître. Cameroun-Burkina Faso, deux pays qui se ressemblent un peu du fait des mutations qu'ont subies leurs équipes nationales. Par choix pour les Burkinabés, par nécessité pour les Camerounais. Les étalons ont en effet opté pour une infusion de jeunes joueurs aux côtés de vétérans comme Aristide Vancé. Les Lions Indomptables, eux, ont perdu 8 de leurs joueurs clés des suites de défections. Ils ont fait appel à une nouvelle classe de jeunes et c'est ces jeunes qui renforcent l'équipe conduite par Benjamin Moukandjo. Cela promet un match très engagé avec tous ces jeunes qui voudront faire leur preuve. Timothée Donagmaï, Libreville, VOA Afrique.
La CAN 2017 n'a pas encore commencé, mais on parle déjà de la Coupe d'Afrique des Nations 2019.
L'épreuve se déroulera au Cameroun et la Confédération africaine de football a procédé hier au tirage au sort des éliminatoires de cette CAN 2019. Y a-t-il eu des surprises? Élément de réponse avec Élisée Oukpatine.
Des duels très attendus pour cette ultime étape avant la phase finale. Ainsi, dans le groupe D, l'Algérie va en découdre avec le Togo, le Bénin et la Gambie. Les deux Congos vont s'affronter dans le groupe G en compagnie du Zimbabwe et du Libéria. La Côte d'Ivoire et la Guinée seront dans un face-à-face qui promet dans le groupe H. Le Rwanda et la République centrafricaine complètent le groupe. Autre duel, la Tunisie face à l'Égypte dans le groupe J. Le Burkina Faso contre l'Angola dans la poule I et Mali-Gabon dans la poule C. Le reste des groupes, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Libye et les Seychelles sont logés dans le groupe E. Dans le groupe F, nous avons le Ghana, l'Éthiopie, le Kenya et la Sierra Leone. Groupe K, Zambie, Mozambique, Guinée-Bissau, Namibie et puis groupe L, Cap-Vert, Ouganda, Tanzanie et Lesotho. Déjà, on aura droit à des préliminaires qui auront lieu le 20 mars prochain. Et trois matchs sont programmés. Sao Tomé, Madagascar, Comores, Île Maurice et Djibouti contre Soudan du Sud. La première journée de ces éliminatoires aura lieu le 5 juin prochain. Boycon, Élisée Rumpati, VOA Afrique.
Coupe du monde handball en France.
Le Qatar, vice-champion du monde en titre, s'est incliné pour son entrée en lice dans ce mondial 2017 face à l'Égypte, champion d'Afrique. Le score 22-20 pour les Pharaons. À suivre demain, la Tunisie qui joue contre l'Espagne.
On termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Golden State a logiquement dominé Détroit 127 à 107, tandis que San Antonio a passé ses nerfs sur les Lakers de Los Angeles, victoire 134 à 94.
Merci beaucoup, Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia et Anastasie Toudiech avec vous, place au dossier du jour. Et Anastasie, on retourne en Côte d'Ivoire.
Mais oui, quasiment une semaine de grogne militaire en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Défense, Alain Richard Donwahi, a rencontré les mutins à Bouaké, dont vous avez entendu en première partie du journal qu'ils ont laissé exprimer leur frustration. Mais cet événement est l'occasion pour nous de faire le point sur l'état de l'armée ivoirienne, la réconciliation entre les différentes factions ou encore les réformes tant attendues. Arthur Banga, analyste militaire à l'université d'Abidjan, joint par Tatiana Mousseau, nous apporte quelques éléments de réponse. Écoutons-le.
Le problème qui est posé aujourd'hui est plus posé par les anciens rebelles, justement. Ce n'est pas les militaires qui étaient sous l'armée ivoirienne depuis Laurent Gbagbo. Eux n'ont pas encore posé de revendications. Les revendications qui se posent, ce sont justement les militaires issus des anciennes rébellions. Et ces revendications, elles ne les posent pas par rapport à l'armée qui a combattu sous la République le temps de Laurent Gbagbo, mais par rapport justement aux promesses qui ont été faites lors de la conquête du pouvoir par Alassane Ouattara.
Est-ce que ça ne veut pas dire que la réconciliation ou du moins l'intégration de ces éléments-là n'a pas été réussie ?
Le problème n'est même pas lié à leur intégration au sein de l'armée. Le problème est lié plutôt à des promesses qui ont été faites du moment où ils étaient encore dans la rébellion par sans doute le président Alassane Ouattara à l'époque et certains membres de son gouvernement, d'autant plus que le gouvernement, par la voix du ministre de la Défense, lui-même parle des revendications légitimes.
Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Quels sont les défis justement pour avoir une armée professionnelle et unifiée en Côte d'Ivoire ?
Je pense qu'il y a une très bonne réforme en termes de réforme du secteur de sécurité. La loi de programmation militaire elle-même est une très bonne loi, en ce sens qu'elle prévoit déjà certaines revendications de ces rebelles, c'est-à-dire plutôt de ces mutins, amélioration des conditions de vie, amélioration des casernes, des cas de vie des militaires, et régler les questions d'avancement. Ça, c'est déjà prévu. Aujourd'hui, il faut régler définitivement ces problèmes liés aux primes de la conquête du pouvoir en 2011. Je pense qu'il faut les régler définitivement et puis accélérer la formation de ces gens qui sont issus de la rébellion parce que c'était des soldats rebelles qu'on a transformés en militaires. Et donc, il faut vraiment leur enseigner l'éthique militaire, ce que l'État, le pays attend d'eux.
À quoi ressemble l'armée, en fait, aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de divisions ? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un seul et même homme ?
Dans les protestations des rebelles, ils ont protesté, pardon, des mutins, j'utilise encore le mot rebelle, des mutins ont protesté contre certains de leurs chefs, je pense contre le commandement général, qui estimait ne pas être de bon porte-parole pour eux. Le président a sans doute entendu ça et a précipité le départ du haut commandement ivoirien. Aujourd'hui, il y a un nouveau chef d'état-major. Je pense qu'il a toute l'attitude pour établir son autorité sur toute l'armée ivoirienne. Je pense pas qu'il y ait vraiment un chef qui se dégage, à part le chef d'état-major, à part le président de la République. D'ailleurs, les militaires n'ont jamais remis en cause l'autorité suprême du chef d'état, chef suprême des armées.
Arthur Banga, analyste militaire à l'université d'Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Le roi du Maroc se rendra à Addis Abeba fin janvier à l'occasion du sommet de l'Union africaine, au cours duquel le royaume entend réintégrer l'organisation. Le Maroc avait quitté l'UEA en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique. Pour comprendre ce retour marocain au sein de l'UEA, Dili Diko a joint le journaliste politologue franco-marocain Mustapha Tossa à Paris.
Depuis l'arrivée de Mohamed VI sur le trône marocain, il a complètement changé la diplomatie marocaine. Il l'a orientée vers les territoires africains et on le sentait depuis les années 2000, sa volonté de vouloir absolument revenir à l'Union africaine, organisation que le Maroc avait quittée en 1984, protestant de l'admission d'une république séparatiste qui s'appelle la RAS et le Polisario. À l'époque, Hassan II, en signe de protestation et de colère, avait abandonné et quitté cette organisation. Aujourd'hui, le choix stratégique a été fait de retourner au sein des structures de l'Union africaine, mais cela pose un petit problème. Le Maroc veut absolument que cette Union africaine gèle au moins l'adhésion de cette République séparatiste, les Polisario, pour que lui puisse reprendre sa place. Alors, bien sûr, le Maroc bénéficie d'un certain nombre de soutiens à l'intérieur de l'Union africaine. Beaucoup de pays désirent le voir reprendre son leadership sur cette organisation. Alors, la nouveauté aujourd'hui, et c'est ça qui fait événement aujourd'hui, c'est que le roi du Maroc en personne a décidé de participer au prochain sommet de l'Union africaine, ce qui va donner un poids immense et ça va attirer la lumière médiatique sur ce sommet. Si le roi a décidé lui-même de descendre sur l'arène diplomatique pour défendre le retour du Maroc, cela veut dire qu'il n'y a plus aucun grand obstacle qui empêche ce retour marocain au sein de la famille africaine.
Concrètement, quelles sont les raisons pour lesquelles le Maroc veut revenir dans l'UA ?
Comme le Maroc veut absolument régler ce problème au niveau des Nations Unies, il faut qu'il anesthésie, qu'il paralyse ce séparatisme du Polisario sur le territoire africain. Et la meilleure manière de paralyser ce séparatisme du Polisario, c'est de revenir et de dire sa vérité à lui, à savoir qu'il faut qu'il y ait une solution trouvée d'abord au niveau des Nations Unies, applicable à tous les forums internationaux, y compris le forum africain.
Quels sont les principaux obstacles qui se posent aujourd'hui pour le retour du Maroc dans l'UA ?
Alors les principaux obstacles sont beaucoup plus de l'agressivité diplomatique et politique d'un certain nombre de pays qui s'opposent au Maroc. La traditionnelle opposition algérienne, elle mobilise ses réseaux africains, notamment l'Afrique du Sud. Elle mobilise aussi de manière indirecte la diplomatie égyptienne. Donc, le seul obstacle qui s'oppose au retour du Maroc, c'est cette agressivité de la diplomatie algérienne qui veut absolument maintenir le Maroc isolé de son environnement africain, parce que la diplomatie algérienne sait que si le Maroc retrouve son fauteuil au sein de l'Union africaine, c'en est fini de tout le soutien diplomatique, militaire et économique qu'elle apporte au Polisario, qu'il va falloir revoir l'ensemble de l'équation stratégique de la région, notamment sahélienne.
C'était le journaliste et politologue Mustapha Tossa, joint à Paris par Dili Diko.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
C'est demain samedi qu'une bonne trentaine de chefs d'État d'Afrique se réunissent à Bamako autour du président français François Hollande pour le 27e sommet Afrique-France. Le président français est arrivé aujourd'hui vendredi sur la base opérationnelle de Gao, principale ville du nord du Mali, pour une visite éclair auprès des troupes françaises engagées dans la lutte contre les djihadistes. En dehors du Mali, les troupes françaises sont présentes dans d'autres pays africains pour des missions de maintien de la paix. Bagassi Koura a recueilli l'analyse de Kalilou Sidibé, enseignant à l'université de Bamako.
Le peuple malien applaudit cette intervention, mais malheureusement, l'intervention a été un peu ternie par la question de Kidal. L'armée n'a pas pu se déployer sur l'ensemble du territoire du Mali, notamment dans le nord. Et la deuxième phase, c'est l'impression pour les Maliens d'un certain enlisement de l'opération française avec la force Barkhane. Donc là, les Maliens ne comprennent pas tout à fait la position de la France. Si normalement l'intervention avait pour objectif de libérer le Mali des terroristes, on ne comprend pas pourquoi est-ce que jusqu'à présent l'armée malienne n'est pas déployée à Kidal et pourquoi est-ce que l'administration malienne n'est pas à Kidal. Et également, il y a une opacité totale sur l'opération Barkhane au nord du Mali. Donc ce sont ces aspects de l'intervention française qui font un peu plus ou moins douter les Maliens, sinon les rendre sceptiques face aux réelles volontés et aux réels objectifs de la France.
Oui. Alors chaque fois qu'il y a une crise, la France intervient. Est-ce que ça ne pose pas un problème de souveraineté pour les États africains?
Absolument. La souveraineté dont les États africains bénéficient, si vous voulez, on peut appeler ça de la souveraineté, juridique. Donc, juridiquement, sur les papiers, dans les textes internationaux, dans la constitution, les États sont souverains. Mais la souveraineté est accompagnée aussi de tous ses attributs. Malheureusement, les États africains ne sont pas en mesure de garantir leur propre souveraineté.
Comment est-ce que ce sommet est perçu à Bamako? Qu'est-ce que les Bamakois disent?
Bon, vous savez, au Mali, à Bamako, il y a deux grandes tendances. Il y a plus ou moins l'élite, les intellectuels qui pensent que c'est une bonne chose, c'est l'image de marque du Mali qui accueille les autres États africains, la France, François Hollande, en l'occurrence, tout ça. Mais le Malien d'en bas se pose la question sur la nécessité de ce genre de sommet qui, à l'occasion, essaie plus ou moins de porter un peu de préjudice à la population, parce que d'abord, la circulation à Bamako depuis hier jusqu'à dimanche à minuit, comme les communiqués gouvernementaux le disent, sera pratiquement impossible. La population d'en bas de Bamako ne comprend pas et pense d'ailleurs que ça porte préjudice à leur activité économique.
Kalilou Sidibé, enseignant à l'université de Bamako.
Voilà, vous l'avez reconnu, c'est l'hymne de la CAN 2017. Et justement, on termine cette édition avec notre rendez-vous quotidien sur la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui s'ouvre demain à Libreville. Aujourd'hui, Noah Mankali, notre correspondant à Bissau, nous fait le point en Guinée-Bissau qui en est à sa première participation, suscitant une mobilisation populaire sans précédent dans le pays.
Entendu ce vendredi à la veille de la rencontre historique, les supporters de l'équipe nationale d'Urtus de la Guinée-Bissau continuent d'exprimer le désir de voir leur sélection battre son adversaire.
Pour moi, j'espère qu'on va gagner cette première rencontre pour pouvoir passer à la quart de finale. Le résultat souhaité est 2-1 en faveur de la Guinée-Bissau. Les buts bissau-guinéens seront marqués par Frédéric Mendy et Abel Issa Camara. Je fais appel à tous les bissau-guinéens et qu'ils aient l'espoir et la confiance en notre sélection, comme nous l'avons toujours démontré. Et on espère que cette coupe va venir en Guinée-Bissau.
J'espère que nous dia sábado vamos ganhar e vamos empenhar para que nós podemos.
J'espère que le samedi nous allons gagner et même gagner durant les premières minutes.
Nos primeiros minutos de jogo vamos fazer gol. Nós vamos ganhar.
Je veux que la Guinée-Bissau marque 4 buts. Nous allons gagner, j'en suis sûr et confiant. J'appelle tous les Bissau-Guinéens et les étrangers qui sont ici ou ailleurs de soutenir l'équipe nationale, que ce soit ici ou à l'étranger.
J'espère un bon résultat de la part de la Guinée-Bissau, parce que je suis fan de la Guinée-Bissau. J'étais très contente d'ailleurs lorsque j'ai appris que la Guinée-Bissau va participer pour la première fois à la phase finale. Je veux seulement que l'on batte le pays organisateur, le Gabon, sur un score 1-0. Je ne veux même pas un match nul, malgré les difficultés rencontrées avant le départ de la sélection pour le Gabon.
Pour donner de la force à l'équipe nationale, le ministre de l'Intérieur, Botchikande, a remis 30 passeports au groupe des jeunes supporters de l'équipe nationale qui vont animer et pousser les Djourtous à la victoire dans le stade gabonais. On rappelle que c'est la première fois dans son histoire que la sélection nationale de la Guinée-Bissau arrive à cette phase de la Coupe d'Afrique des Nations. Noah Mankali Bissau, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Georges Léonard Sagno. À la console, Nick Ivanov. Présentation, Abdourahman Dia et Anastasie Tudiache.
Maintenant la conversation via Facebook et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'informations 24 heures sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.